Bien, alors nous allons voir ce soir la question de savoir comment le peuple de Dieu, Israël pour l'Ancien Testament, l'Église pour le Nouveau Testament, a-t-il été amené à reconnaître dans les écrits de la Bible les textes qui étaient inspirés. Comment est-on arrivé à reconnaître qu'il y avait là un caractère tout à fait particulier? Sur quels critères s'est-on basé? Pourquoi ces critères-là et pas d'autres? Troisième question, qui a pris la décision de reconnaître à partir de ces critères l'inspiration de l'Écriture sainte? Comment ce choix a-t-il été fait? Et puis enfin, pourquoi ces livres-là et pas d'autres? Et c'est pourquoi, en fait, nous touchons là à une des questions les plus difficiles en ce qui concerne le problème de l'inspiration de l'Écriture sainte et de la doctrine de l'Écriture sainte. N'est-ce pas? Aujourd'hui, en particulier dans la plupart des églises, il y a un problème au niveau justement du canon. Le canon, bien entendu, c'est un avoir avec, vous comprenez bien, les divisions d'artillerie ou tout ce qu'on voudra. Le canon, c'est la règle, en grec, n'est-ce pas? La norme. Donc, les écrits qui entraient dans la norme, dans la règle à mesurer, qui permettaient de reconnaître qu'ils étaient conformes à cette règle et donc inspirés. Or, justement, les questions qui se posent aujourd'hui dans la plupart des églises au niveau de l'inspiration de l'Écriture sainte conduit aussi, bien évidemment, à mettre en doute la réalité du canon. Et s'il y a un problème au niveau de l'inspiration de l'Écriture, il y a aussi un problème dans l'Église aujourd'hui, dans les églises, au niveau du canon. En fait, pour la plupart des critiques modernes, il n'y a pas de canon. Ou en fait, ou plus exactement, le canon de l'Écriture sainte est un canon arbitraire. L'Ancien Testament, le canon de l'Ancien Testament a été, selon eux, fixé par les Massorètes, ou même bien avant, disons, par les Tanaïm, c'est-à-dire les rabbins qui ont reconstruit le judaïsme après la destruction du Temple, en 70 après Jésus-Christ, et qui dans les années 90 à Yavne ont fixé le canon de l'Écriture sainte. Pour les critiques, il s'agirait d'une décision arbitraire de ces derniers, basée sur des critères qui étaient des critères uniquement humains, et il n'y a donc aucune raison de considérer, toujours selon les dires de ces théologiens, c'est les écrits de la Bible comme plus inspirés que les écrits de Che Guevara, par exemple. Je caricature un peu, mais à peine j'ai entendu personnellement tenir des propos de ce genre. N'est-ce pas? Même si c'est un cas extrême. Même chose en ce qui concerne le Nouveau Testament, qui a été, selon toujours ces messieurs, le fruit d'une décision conciliaire. Et donc, une décision arbitraire, basée sur des critères que nous ne pouvons plus reconnaître aujourd'hui comme valables, si bien qu'il n'y a aucune raison pour donner une primauté aux écrits bibliques sur n'importe quel autre écrit moderne ou ancien. Le seul intérêt que peuvent présenter pour nous aujourd'hui les écrits de la Bible, c'est qu'il s'agit de textes d'Église et qui sont donc le reflet de la foi de l'Église, en particulier de l'Église naissante. À ce titre-là, ils ont un intérêt, ils représentent même une certaine norme, mais en aucun cas on ne peut les considérer comme ayant une autorité absolue, comme eux-mêmes demandent à être considérés, et comme l'Église primitive et les Églises qui sont restées fidèles aujourd'hui à la vision biblique l'affirment. Alors, bien entendu, une telle vision du canon conduit tout simplement à la destruction de la notion même d'inspiration de l'Écriture, à la notion même de la destruction de la notion de Bible, d'Écriture sainte, et à la négation de l'autorité de la Bible. Et c'est pourquoi il est important d'établir solidement la doctrine du canon d'Écriture. Alors, s'agit-il en effet, dans la fixation de ce canon, par le peuple d'Israël d'une part, en la personne des Tanaïm, par l'Église hein, à travers des conciles, s'agit-il effectivement d'un choix arbitraire, ou bien y a-t-il une direction divine qui a conduit ce choix? Voilà finalement toute la question. Bien sûr, l'Église fidèle, au travers de tous les siècles jusqu'à nos jours, a répondu aux adversaires qui, précisément, ont toujours attaqué sur ce point-là. Par exemple, les philosophes païens ont attaqué le christianisme naissant dans les premiers siècles que nous sommes en train d'étudier en histoire de l'Église sur ce point, justement, du canon de l'Écriture sainte. Et l'Église fidèle a toujours répondu, le choix des livres qui ont été rassemblés dans le canon de l'Écriture sainte a été divinement inspiré et conduit par l'Esprit de Dieu. En sorte que l'Église de Jésus-Christ, faisant suite au peuple d'Israël, a surnaturellement discerné parmi les livres qui étaient à sa disposition ceux qui avaient été réellement inspirés par le Saint-Esprit et ceux qui ne l'étaient pas. Et dans ce domaine, parce qu'il y a eu une direction surnaturelle de l'Esprit de Dieu, la décision et les décisions, parce que ça s'est fait par étapes, qui ont conduit à la fixation définitive du canon, ont été infaillibles, car miraculeusement conduites par Dieu. Alors, voilà la thèse. C'est cette thèse maintenant qu'il faut étayer. Et pour étayer cette thèse, il faut réfuter un certain nombre d'objections de ceux qui contestent cette direction divine dans la formation et dans la fixation du canon de l'Écriture sainte. Il est certain que si l'on considère, un peu rapidement, comme le font beaucoup d'historiens de l'Église, que la fixation du canon de l'Ancien Testament est l'œuvre pratiquement uniquement des Tanaïm, que la fixation du Nouveau Testament est l'œuvre uniquement des conciles, eh bien, il est extrêmement difficile de penser qu'il y a eu là une direction infaillible de Dieu. Et c'est là précisément qu'il nous faut entrer plus précisément dans l'histoire de la canonisation, du processus de canonisation, du processus par lequel les livres saints ont été reconnus comme tels. En réalité, historiquement, il y a trois étapes dans la formation du canon. Dans un premier temps, il y a un certain nombre d'écrits qui circulent au sein de la communauté croyante, que cette communauté soit la communauté d'Israël, pour ce qui est de l'Ancien Testament, ou la communauté de l'Église, pour le Nouveau Testament. Et ces écrits, ces textes qui circulent au sein de la communauté croyante, s'imposent à elle, sans qu'il y ait une décision officielle à ce niveau-là, de par l'autorité interne qui est la leur. Je crois qu'il faudrait reprendre un texte que Jésus cite dans Jean 10 quand il dit « Mes brebis connaissent ma voix. Par contre, elles ne reconnaîtront pas la voix d'un étranger. » Lorsque le Seigneur parle dans un écrit, ou parfois directement, eh bien, le peuple de Dieu sait que c'est Dieu qui a parlé. Il n'y a pas de discussion. C'est vrai pour la parole écrite, et c'est vrai aussi pour la parole orale, si j'ose dire. Prenons par exemple le cas d'une prophétie. Lorsqu'une prophétie est réellement apportée sous l'onction, lorsque une prophétie est apportée avec l'autorité du Saint-Esprit, elle s'impose évidemment à tous ceux qui l'écoutent, du moins les croyants, éventuellement même les incroyants. Et l'on sait que c'est Dieu qui a parlé, on le sait, parce qu'il y a un écho dans le cœur. Et dans ce cas-là, il n'y a pratiquement pas besoin de discuter pour connaître l'authenticité de la prophétie. L'apôtre Paul, quand il parle des prophéties, nous dit que ces dernières doivent être jugées. C'est-à-dire, on doit se poser la question, cette parole est-elle de Dieu ou n'est-elle pas de Dieu? Est-elle de Dieu entièrement ou est-elle de Dieu partiellement? Voilà comment il faut juger quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu. Eh bien, si nous faisons cela spontanément dans le milieu charismatique aujourd'hui, les premiers croyants qui ont reçu la parole de Dieu sous l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance ont fait exactement la même démarche. Et encore une fois, lorsque une parole est véritablement de Dieu, lorsqu'il y a l'attestation et l'approbation du Saint-Esprit, cette parole s'impose de par sa propre autorité. Et souvent, on constate que lorsqu'il y a discussion sur une parole de Dieu, c'est justement parce qu'il y a de fortes chances pour qu'elle ne soit pas de Dieu. Mais lorsque une parole est véritablement dite de la part de Dieu, eh bien, elle s'impose de par sa propre autorité. Il y a donc dans la Bible une autorité interne qui fait que les brebis du Seigneur reconnaissent alors la voix du bon berger. Et ceci, bien entendu, tous les croyants peuvent le faire, encore aujourd'hui. Et je vous propose éventuellement une petite expérience, si vous avez par exemple l'occasion d'avoir entre les mains une Bible dite catholique, c'est-à-dire, ou bien même par exemple une TOB qui contient les apocryphes. Nous reviendrons plus tard sur la question des apocryphes. Eh bien, lisez par exemple le livre de Daniel dans une version avec les apocryphes. Et soudain, vous verrez qu'il y a, dans ces versions avec apocryphes, des chapitres qui n'existent pas dans la version officielle. Et vous verrez la différence. Lisez ensuite, par exemple, quelques passages du livre des Maccabées. Lisez quelques passages du livre de Judith ou de Tobie. Et vous ne sentez pas l'onction de l'Esprit de Dieu. Vous ne sentez pas, n'est-ce pas, cette approbation d'Esprit qui vous étreint lorsque vous lisez un texte biblique canonique, celui-ci. Et si nous, des siècles après, sommes capables de sentir cet écho ou ce manque d'écho quand il s'agit des livres apocryphes, eh bien, les premiers chrétiens ou les juifs qui ont reçu l'Ancien Testament ont été capables, évidemment, du même jugement et du même discernement. Ensuite, que ce jugement implicite de la communauté croyante ait été explicité par ses responsables, ça c'est autre chose. Que ce processus d'officialisation ait suivi la voie des écoles des Tanaïms pour ce qui concerne l'Ancien Testament, de différents conciles pour ce qui concerne le Nouveau Testament, c'est une autre chose. Mais finalement, la chose première, ça n'est pas la décision arbitraire des responsables de l'Église, mais c'est que déjà des dizaines d'années avant, l'officialisation et la décision définitive, n'est-ce pas, il y avait au sein du peuple de Dieu un large consensus pour reconnaître dans ses écrits l'inspiration du Saint-Esprit et par conséquent la voix de Dieu. Alors, si vous voulez, voyons maintenant comment cela se produit, ce phénomène se produit. Car il y a eu des livres pour lesquels il y a eu discussion. Et c'est là précisément qu'il y a une faille apparente dans la thèse qui est la nôtre ce soir, n'est-ce pas ? Il y a eu, par exemple, un certain nombre d'églises qui ont reconnu comme inspiré un certain nombre de livres apocryphes. D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui. L'Église catholique reconnaît comme inspiré un certain nombre de livres que nous appelons, nous, apocryphes, avec les Juifs. Mais il y a eu, par exemple, dans l'Église éthiopienne, dans l'Église copte, dans les églises nestoriennes, dans d'autres parties de l'Église qui aujourd'hui n'existent plus ou n'existent qu'à l'état de souvenir, disons, du passé, il y a eu un certain nombre de gens qui ont reconnu comme inspirés des livres que nous considérons, que toute l'Église aujourd'hui pratiquement considère comme apocryphes. Et c'est d'ailleurs, si ces apocryphes nous sont conservés, c'est justement par ces églises-là, très souvent. Alors on dirait, mais ces gens-là n'ont pas reconnu la voix du bon berger. Alors, la réponse est celle-ci, il s'agissait d'hérésie. Il s'agissait de fractions de l'Église qui étaient hérétiques. Et qui, précisément, cherchaient en dehors des Écritures qui étaient reconnues par tous, par toute l'Église, sans discussion comme inspirées, cherchaient en dehors de ces livres-là, des livres pour étayer les doctrines hérétiques qui étaient les leurs. Ça, c'est toujours la démarche des hérétiques, quels qu'ils soient. On part de l'Écriture inspirée, et vient un temps où celle-ci est insuffisante pour étayer les doctrines hérétiques qui sont celles des sectes, comme on les appellerait aujourd'hui, et par conséquent, il faut chercher en dehors du canon des Écritures. Et si, par exemple, il y a aujourd'hui l'Église catholique qui admet un certain nombre de livres apocryphes, c'est exactement pour la même raison. Jusqu'au Concile de Trente, jusqu'au XVIe siècle, l'Église catholique n'a jamais reconnu comme inspirés les livres qu'elle appelle aujourd'hui deutérocanoniques. Mais que s'est-il passé ? Au XVIe siècle, a eu lieu la Réforme. Et la Réforme a été la contestation d'un certain nombre de doctrines hérétiques qui se trouvaient au sein de l'Église catholique. Par exemple, la doctrine du purgatoire, la doctrine des mérites, des saints, la doctrine des prières pour les morts, et des choses de ce type. Or, il se trouvait que dans les livres apocryphes, il y avait, notamment dans les livres des Maccabées, des récits où l'on voyait les Juifs, un certain nombre de Juifs du moins, prier pour leurs camarades qui étaient morts au combat. Donc, disait l'Église catholique, on avait donc des preuves scripturaires de la validité de la prière pour les morts. Si l'on prie pour les morts, c'est donc que l'on peut changer quelque chose au sort des défunts. C'est donc qu'il y a possibilité d'avoir des mérites. C'est donc qu'il y a un purgatoire où on peut passer finalement de l'enfer au paradis en agissant sur les défunts par différents moyens, les prières et éventuellement les messes en faveur des morts. Et l'Église catholique au XVIe siècle a fait la même démarche qu'ont fait par exemple les Éthiopiens. Les églises éthiopiennes, quand elles ont adopté les livres d'Enoch, les livres apocryphes d'Enoch, etc. Donc, voyez-vous, ceci n'enlève rien à notre thèse, mais au contraire ajoute. Quand nous voyons des sectes modernes agiles, c'est exactement le même processus. Les Mormons, par exemple, ne se contentent pas de la Bible, c'est insuffisant. Ils créent leur propre livre apocryphe, qu'ils considèrent comme inspiré, qu'ils nomment le livre de Mormon. Les témoins de Jéhovah, sans aller jusque-là, créent un certain nombre d'écrits dont l'autorité est au moins égale à la Bible, et en tout cas qui sont des grilles de lecture obligées de la Bible. Donc, on peut dire aussi un second canon de l'écriture qui vient compléter et en tout cas contredire sur un certain nombre de points le canon officiel de l'écriture sainte. Alors, là, nous ne sommes plus au sein d'une communauté vraiment croyante, mais nous sommes au sein d'une communauté hérétique, qui dès lors n'est plus capable de reconnaître la voie du bon berger. Mais lorsque le peuple de Dieu, comme dit Jésus, si quelqu'un veut faire ma volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Si quelqu'un veut sincèrement chercher la vérité, la parole du Seigneur, alors celle-ci lui sera révélée, celle-ci lui sera communiquée. Et ce n'est pas sans raison que les réformateurs ont rejeté sans appel précisément les livres apocryphes, sans nier qu'il pouvait y avoir dans certains d'entre eux un certain nombre de propos édifiants, tout comme il peut y en avoir dans des livres de piété d'ailleurs, n'est-ce pas ? Mais en niant qu'il y ait là un caractère d'inspiration d'écriture. Nous reviendrons sur cette question des apocryphes plus tard, donc je laisse cela de côté. Maintenant, autre objection, c'est le fait qu'un certain nombre de livres, tant en ce qui concerne l'Ancien que dans le Nouveau Testament, ont été canonisés très tard. Et qu'il y a eu, dans un certain nombre d'églises, de graves discussions, justement, pour savoir s'ils étaient inspirés ou non. C'est le cas, par exemple, des épîtres de Pierre, du moins de la deuxième. C'est le cas de l'épître aux Hébreux, et à un degré moindre, c'est aussi le cas de l'Apocalypse. Un certain nombre d'églises, dans les premiers siècles du christianisme, refusaient de reconnaître comme inspirés ces écrits-là. Pour toutes sortes de raisons sur lesquelles inutile de revenir. Et on dit, bon, bien dans ce cas-là, il y a eu, en fin de compte, une décision arbitraire. Bien, je crois que nous retrouvons ici un petit peu ce que nous disions au sujet des prophéties. Il y a des prophéties qui s'imposent immédiatement, par elles-mêmes, parce que, eh bien, la voix de Dieu est évidente. Par exemple, quand une prophétie dévoile ce qui est caché, quand une prophétie annonce quelque chose qui va se produire dans l'avenir et qui s'accomplit, comme d'ailleurs le livre de Deutéronome le dit. Mais il y a d'autres prophéties où l'on peut s'interroger parfois. Est-ce bien de Dieu ou n'est-ce pas de Dieu? Et il faut parfois attendre, il faut parfois prier pour pouvoir avoir une conviction dans ce domaine. Et il peut y avoir parmi ceux qui s'interroge sur cette prophétie, la communauté, un certain nombre de points de vue pendant un temps qui sont différents. Mais ce qui est remarquable, c'est que petit à petit, au sein d'une communauté véritablement croyante par rapport à une telle prophétie, on arrivera à une conviction qui fera l'unanimité. Soit dans un sens, soit dans un autre. Soit pour reconnaître le caractère d'inspiration, soit pour nier le caractère d'inspiration. Et quand nous regardons justement ces écrits dont nous parlions, eh bien le phénomène a été le même. Il y a eu davantage de temps pour reconnaître le caractère d'inspiration, parce que ce caractère d'inspiration était peut-être moins évident. Au niveau de l'Ancien Testament en particulier, quels ont été les livres de l'Ancien Testament qui ont été canonisés les plus tard? Eh bien je crois que c'était inutile même de poser la question, je vous êtes capable de répondre, même sans connaître l'histoire de la formation du texte biblique. C'est l'Ecclésiaste, c'est le Cantique des Cantiques, c'est le livre d'Esther, et aussi, à un degré moins, le livre de Daniel. N'est-ce pas ? Parce que c'est vrai, vous avouerez peut-être vous-même, que quand on lit par exemple le livre de l'Ecclésiaste, quand on lit le Cantique des Cantiques, la première réaction c'est de dire qu'est-ce que ça vient faire dans la Bible ? N'est-ce pas ? Et ce n'est qu'après qu'on se rend compte que aussi de cette, d'une certaine manière qui est plus cachée, Dieu parle. N'est-ce pas? Mais il faut un deuxième temps pour le reconnaître. Et si, au niveau de notre expérience personnelle, il en est ainsi, on peut comprendre aussi qu'au niveau du peuple de Dieu, du consensus du peuple de Dieu, le processus et l'évolution sont la même. Alors, ceci est très important parce que, dans la vision catholique du canon, n'est-ce pas, ce dernier est le résultat, il y a un peu la même chose si vous voulez, c'est le résultat, mais de toute une tradition populaire. Une tradition populaire au travers de laquelle le clergé, les responsables de l'Église, discernent ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est eux qui font ce travail de discernement. Un travail de décantation théologique, et ensuite qui fixe la doctrine à partir finalement de ce trésor des traditions populaires qui mélange à la fois vérité et erreur, vérité et légende. Alors, la différence de la vision biblique, entre la vision biblique et la vision catholique, c'est que dans la vision biblique, n'est-ce pas, il y a une parole de Dieu qui est dite, par révélation. Et le peuple de Dieu, qui cherche la parole de Dieu, qui cherche la vérité, qui aime la vérité, reconnaît la voix de Dieu. Dans l'essentiel, dans les détails, bon, eh bien, il y aura parfois un peu plus de difficulté à se mettre d'accord. Mais en fin de compte, c'est ainsi. Et les responsables de l'Église, dans un deuxième temps, eh bien, officialisent ce qui est déjà un consensus général. Voyez-vous ? Et fixent alors définitivement pour les générations futures, ce qui sera considéré comme la parole de Dieu. Non pas seulement ce qui sera considéré comme la parole de Dieu, mais ce qui est la parole de Dieu. Et va donc représenter l'autorité suprême. Comme nous l'avons dit également en histoire d'Église, c'est l'Église du IIe siècle qui pose le principe du canon. Bon, la fixation définitive du canon attendra encore plusieurs siècles. Mais le principe d'un canon d'écriture sainte est posé dès la disparition des apôtres. Ce faisant, l'Église fait un acte d'humilité. Elle affirme qu'elle n'est pas propriétaire de la parole de Dieu. Elle affirme son caractère faillible. Et là, ça c'est l'argument imparable vis-à-vis du catholicisme quand il prétend que l'Église est infaillible en ce qui concerne la doctrine. Au contraire, l'Église du IIe siècle dit « Nous sommes une Église faillible. » Et précisément parce que nous sommes une Église faillible, nous avons besoin d'une norme qui soit extérieure à nous, avec laquelle nous allons nous mesurer constamment. Et qui sera pour nous une perpétuelle remise en question. Et cette norme, ça va être l'enseignement des apôtres. Les apôtres, les douze, comme nous disons les apôtres, c'est le sens des douze et non pas les apôtres de l'Église, qui se succèdent en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle, mais les douze, leur ministère est d'être les fondements de l'Église, les fondements du corps de Christ. Il pose les fondements doctrinaux qui seront valables pour l'Église de tous les lieux et de tous les temps. Sans nier qu'au-delà de l'époque apostolique, il puisse y avoir encore des inspirations du Saint-Esprit, et l'Église du IIe siècle en est fort bien, fort persuadée, parce que c'est encore une Église charismatique. C'est encore une Église qui connaît ce que c'est que la prophétie. C'est encore une Église au sein de laquelle il y a des apôtres, des prophètes et des docteurs. Donc, sans nier que le Saint-Esprit puisse encore parler dans l'Église du IIe siècle et dans l'Église des siècles qui suivront, on reconnaît que l'inspiration qui va être alors donnée n'aura pas la même autorité que l'inspiration donnée à l'âge apostolique. Et la différence essentielle va être celle-ci. Ce que Dieu dit aujourd'hui est circonstanciel. C'est pour l'Église d'un lieu qui vit une situation donnée dans un temps donné. Ou bien alors, c'est pour l'Église de tous les lieux, mais dans un temps donné, limité. Et ce que Dieu va dire aujourd'hui à l'Église du 2e siècle, ou du 3e ou du 4e, ne sera pas obligatoirement valable pour l'Église du 5e, du 6e ou du 7e, parce que cette Église ne sera plus dans les mêmes circonstances. Par contre, ce que le Seigneur a dit à l'Église du 1er siècle par la bouche des apôtres est valable, certes, pour l'Église du 1er siècle, mais est valable aussi pour l'Église du 2e, du 3e, du 4e, pour l'Église de tous les temps et pour l'Église de tous les lieux. Et c'est pourquoi l'Écriture sainte a un caractère unique. Non pas qu'il y ait, comment dirais-je, une inspiration qui soit plus grande, ou si vous voulez que le Saint-Esprit soit limité aujourd'hui alors qu'il ne l'était pas à l'époque du 1er siècle, mais tout simplement parce que l'Esprit Saint a dit au 1er siècle ce qui devait rester valable pour l'Église de tous les temps et de tous les lieux, qu'il n'est donc plus utile aujourd'hui qu'il répète les mêmes choses, et que ce qu'il a à dire aujourd'hui ne sera qu'une parole incarnée dans une situation donnée. L'Église qui vivra une certaine situation, dans un certain temps. Alors, ce que le Saint-Esprit aura pu dire à l'Église du 2e siècle, ou à l'Église du 3e siècle, ne sera pas obligatoirement dénué d'intérêt pour l'Église du 5e siècle, du 6e ou du 7e ou du 8e, mais uniquement à titre d'information, à titre de, comment dirais-je, il y aura des leçons à en tirer, mais pas quelque chose à appliquer comme cela, obligatoirement, comme ayant autorité absolue. De la même manière, si vous voulez, que lorsque le Saint-Esprit parle précisément par prophétie à un tel ou à un tel, aujourd'hui, nous connaissons très bien ça dans le milieu charismatique, ou à telle et telle église, tiens, on entend dire, dans telle église, il y a telle et telle prophétie qui a été donnée. Ah, mais tiens, c'est intéressant ça. Parce qu'on peut en tirer des leçons pour soi. Mais elle a été donnée, cette prophétie-là, à cette église-là. Parce que cette église-là avait un problème précis qui n'est pas le nôtre. Alors nous pouvons en tirer quelque chose, bien sûr. Mais nous n'avons pas appliqué de la même manière que cette église autre. N'est-ce pas ? Il y a un caractère limité aujourd'hui de la révélation de Dieu dans le temps ou dans l'espace. Et c'est pourquoi, précisément, au IIe siècle, en posant cette réalité d'un canon des Écritures, l'Église du IIe siècle reconnaissait que maintenant le Saint-Esprit allait parler d'une manière qui n'était plus destinée à être entendu par l'Église de tous les temps et de tous les lieux. Et là, précisément, nous avons la négation de la notion catholique de tradition. Et là, c'est très important, cette question, parce que aujourd'hui, on réduit le canon à une tradition. On dit, et on a raison de le faire, parce qu'historiquement, c'est indiscutable, que les textes bibliques ont existé, pour beaucoup d'entre eux du moins, d'abord oralement. C'est vrai pour beaucoup d'entre eux, c'est pas vrai pour tous. Par exemple, les épîtres ont tout de suite été mises par écrit. Mais les évangiles ont existé sous forme orale d'abord. Donc sous forme de tradition, dit le catholicisme. Pourquoi, nous disent les catholiques, la tradition s'arrêterait-elle à la fin du 1er siècle avec la mort des apôtres? Il y a eu dans l'Église, depuis le IIe siècle jusqu'au XXe siècle, une tradition des gens qui ont reçu des choses de la part de Dieu et qui l'ont transmis. Il y a aussi ceux, on aurait pu ajouter, qui ont dit avoir reçu des choses de Dieu qui n'étaient pas de Dieu, et qui les ont transmises comme étant de Dieu. Mais on ne peut pas nier de fait qu'il y ait eu malgré tout des choses qui aient été reçues véritablement de Dieu. Alors pourquoi ne pas mettre, disent les catholiques, sur le même plan la tradition post-apostolique et la tradition apostolique? Eh bien justement à cause de ça. Parce que la tradition post-apostolique, mis à part le fait énorme que très souvent, n'est-ce pas, on prête à Dieu des pensées qu'il n'a pas et des paroles qu'il n'a pas dites, mais même en supposant qu'il y ait dans cette tradition des réalités qui soient véritablement de Dieu, celles-ci ne peuvent avoir d'autre intérêt pour nous aujourd'hui qu'historique et documentaire. Et bien évident que nous ne vivons plus aujourd'hui au temps des catacombes, au temps où les chrétiens étaient mangés par les lions, et que ce que le Seigneur a pu dire à ces gens qui allaient être mangés par les lions est intéressant pour nous, certes, à titre historique, mais nous concerne beaucoup moins que le sermon sur la montagne. Ça va de soi. Alors, c'est très important quand on parle du canon. Parce que poser la réalité d'un canon, c'est poser la réalité d'une norme qui est réellement absolue. Alors les catholiques nous diront, mais vous dites que vous avez cette norme absolue, donc vous avez un pape en papier. Et souvent, on est complexé lorsqu'on se trouve confronté avec ce genre de réflexion. Eh bien oui, de fait. Mais pas seulement en papier, si j'ose dire, qui est le résultat d'une inspiration particulière et unique dans l'histoire du salut. Une inspiration unique que les chrétiens des premiers siècles ont immédiatement reconnue. Et qu'ils ont tellement reconnu qu'ils ont recueilli ces textes-là avec un soin particulier, ils les ont recopiés avec un soin particulier et ils les ont transmis jusqu'à nous. Alors voyons maintenant, si vous voulez, les étapes de cette canonisation. Et nous allons voir, justement, à travers quelques exemples, finalement, tout ce que nous avons défini ici schématiquement. D'abord, au niveau de l'Ancien Testament. Au niveau de l'Ancien Testament, il y a trois étapes dans la canonisation des écrits, qui correspondent, grosso modo, à la division que les Juifs font de l'Ancien Testament. Tout d'abord, nous trouvons la Torah. La Torah, c'est-à-dire le Pentateuch, les cinq livres de Moïse. La Bible elle-même, dans les écrits historiques ou dans les écrits de la sagesse, les prophétiques, nous permettent de comprendre comment la Torah a été canonisée, c'est-à-dire comment le peuple de Dieu a reconnu là qu'il s'agissait de la parole de Dieu. Les plus anciennes traces de cette autorité de la Torah se trouve déjà évoquée dans l'Ancien Testament, tout d'abord sous Ezra, au moment du retour de l'exil. Ezra était revenu avec le livre de la Torah, et devant le peuple revenu à Jérusalem, il en a fait la lecture du matin jusqu'au soir. Et là, nous voyons un phénomène tout à fait intéressant. Ce livre de la Torah, que la plupart du peuple exilé avait complètement oublié pendant son exil, soudain, lui à nouveau proclamé. Et là, il se passe un phénomène unique. À l'ouïe de la lecture de cette Torah, le peuple est profondément remué, bouleversé. Nous dirions qu'il est convaincu de péché. Et la lecture de la Torah se termine dans un concert de lamentations, de pleurs, d'actes de détresse, de deuil, etc. Pourquoi ? Parce que le peuple a été convaincu de péché. Et ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, le deuxième effet que produit la lecture de la Torah après cette conviction de péché, c'est la repentance. Que faut-il que nous fassions ? Nous avons gravement péché contre Dieu. Et troisième temps, eh bien, le peuple dit, maintenant, nous décidons que la règle de notre vie, ce sera cette parole que nous avons entendue. Si nous voulions employer un langage moderne qui serait bien entendu anachronique à cette époque-là, nous dirions, la Torah va devenir la constitution de l'État d'Israël. La Torah va devenir la constitution religieuse spirituel, civil, moral, politique, à tous les niveaux. La vie du deuxième royaume juif, rassemblé de l'exil de Babylonie, va être complètement basée et déterminée sur cette Torah dans laquelle nous venons d'entendre la parole de Dieu et au travers de laquelle nous avons reconnu la voix de Dieu. Cette parole de Dieu a bouleversé notre cœur. Elle a remis en question notre vie. Nous avons été amenés à nous repentir de nos péchés. Et maintenant, nous désirons marcher conformément à ce qui a été écrit. Et cela, quand une parole de Dieu est inspirée, elle produit toujours cet effet-là. C'est vrai de la Bible, c'est vrai des prophéties. Aujourd'hui aussi, n'est-ce pas? Vous trouvez ça aussi dans 1 Corinthiens 14, quand Paul dit « Si tous prophétisent que survient un homme du peuple, un incroyant, il est bouleversé, il tombe sur sa face, et confessant ses péchés, il reconnaît que le Seigneur est véritablement au milieu de vous. » C'est exactement la même chose. Donc nous pouvons être certains que déjà au retour de l'exil, la Torah a été reconnue dans son état actuel pratiquement, comme parole de Dieu. Mais nous pouvons remonter plus haut pour ce qui concerne la Torah. Nous pouvons remonter à l'époque de Josias. Josias, le roi pieux, qui avait fait réparer le temple, et au cours de la réparation du temple, on avait trouvé un rouleau de la Torah qui n'était sûrement pas celui-là de toute la Torah. La plupart des spécialistes, pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je n'entrerai pas, pensent qu'il s'agissait essentiellement du livre du Deutéronome. Peu importe. On amène ce livre au roi, on en fait la lecture devant le roi, et le roi est convaincu de péché. Le roi est profondément bouleversé, il déchire ses vêtements, il dit « Mais c'est affreux, nous sommes des pécheurs, nous avons violé la loi de Dieu, Dieu est irrité contre nous. » Eh bien, il faut réagir, on ne peut pas rester dans cette situation-là. Alors il fait rassembler le peuple, et on lui dit le livre qui a bouleversé le roi. Et le peuple, à son tour, est bouleversé de la même manière. Et il a la même réaction que le roi, il dit « Nous avons péché contre Dieu, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. » Alors c'est la repentance générale. On publie un jeûne, un jour d'humiliation, chacun répare ses péchés, met de l'ordre dans sa vie. Et ensuite on dit « Bien maintenant voilà, ce livre de la loi de Dieu, maintenant va être la base de notre vie. » Et Josias conclut, en présence de tout le peuple, nous dit le deuxième livre des rois, une alliance solennel avec l'Éternel, au terme duquel, eh bien, le peuple s'engage à respecter toute la parole de Dieu, tout ce qui est écrit dans le livre de la loi qui a été découvert. Donc, il y a aussi, à l'époque de Josias, nous pouvons dire, un processus de canonisation. C'est cela, la canonisation. Quand le peuple de Dieu reconnaît que là, eh bien, Dieu parle. Et Dieu parle parce qu'il est saisi par cette parole et par l'Esprit Saint. Parce qu'il est bouleversé, parce que sa vie est changée, transformée par cette parole qu'il a entendue. Et le peuple dit, mais maintenant, cette parole sera la norme. Cette parole sera la base de ma vie nouvelle. Et je m'engage solennellement devant Dieu à m'efforcer de mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Alors, là, il y a officialisation de la canonisation. Nous pouvons encore remonter plus haut. D'abord, nous savons que les Samaritains reconnaissent la Torah. Bon, les Samaritains sont des gens qui sont les héritiers du royaume du Nord. Le royaume du Nord connaissait la Torah et vivait selon la Torah. La Torah était déjà officielle à ce moment-là. Ézéchiel connaît la Torah, mais nous pouvons encore remonter plus haut, à l'époque de Josué, donc peu de temps après la fin de la rédaction de la Torah, nous voyons Josué rassembler le peuple tout entier à Sichem, et là il fait une lecture solennelle de la loi, et vous savez, c'est la fameuse assemblée de Sichem, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Même processus, conviction de péché, alliance solennelle entre le peuple et le Seigneur sur la base justement de la Torah. La Torah telle qu'elle existe aujourd'hui, vraisemblablement dans sa forme, pas dans le fond, mais dans la forme, a été fixée, si j'ose dire, En gros, à l'époque royale, même s'il existait déjà bien avant. Avec Josias, il y a un processus d'officialisation qui commence et qui va s'achever avec Ezra. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il y a une fixité, une autorité et donc une canonicité précoce des documents. Prenons par exemple quelques cas. Pour montrer le respect pointilleux que ceux qui ont reçu les textes sacrés ont accordé à ces textes. Vous savez comment dans le livre de la Genèse, par exemple, dans les récits de l'histoire de Jacob, il y a l'épisode fameux où Jacob s'enfuit de chez Laban, son beau-père, et Rachel, sa femme, vole les idoles domestiques de son père, les téraphim. Et vous savez comment elle les substitue, elle les cache, et son père ne les trouve pas. Bien. Or, c'est un acte d'idolâtrie manifeste que celui que Rachel a commis. Quelque chose que le livre de l'Exode et les livres qui suivent condamnent explicitement. Bon. Donc, on peut s'étonner, en lisant le livre de la Genèse, que le livre de la Genèse rapporte l'événement du vol de Théraphine par Rachel, mais ne disent pas un mot de condamnation sur la conduite de Rachel. Pas un mot. On relate l'événement, point. Et voilà quelque chose qui aurait été propre à choquer ceux qui ont ensuite, à l'époque royale, à l'époque où on luttait contre l'idolâtrie, n'est-ce pas? Comment le Seigneur laisse faire ça par Rachel, la mère d'Israël? Pas un mot de condamnation? Bon, ben moi, le scribe qui suis en train de copier la Bible, hein, j'ai arrangé ça. Hein. Et la colère de notre Seigneur s'enflamma contre Rachel. Terminé, ni vu ni connu, on ajoute ça. Aucun scribe, à aucune époque, ne s'est permis quoi que ce soit semblable. Le texte est resté tel quel, sans un mot de condamnation, alors que c'était quelque chose qui devait choquer terriblement les Juifs de l'époque d'Ezra en particulier. Et même déjà à partir de l'époque de Josias. Personne ne s'est permis d'ajouter quoi que ce soit. Même dans ce que la Bible avait de choquant, ceux qui l'ont reçu dès les origines ont gardé cela sans modifier quoi que ce soit. Ça prouve quoi? Et ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais on pourrait prendre de multiples exemples du même type. De choses qui, dans le contexte historique où s'est produit la transmission du texte biblique, certains textes étaient scandaleux par rapport à la théologie que les gens avaient dans ce temps-là. Eh bien, ils ne se sont pas permis de retoucher d'un pouce ces textes-là. Ça prouve quoi? Qu'ils en avaient un respect total. Et s'ils en avaient un respect total, c'est parce qu'ils croyaient que ce texte était directement inspiré par le Seigneur, donc qu'il était canonique. Autrement dit, des exemples de ce type nous montrent que la canonisation était quelque chose qui s'est produit presque immédiatement. Presque au moment où ces textes ont été reçus. Même chose au niveau du Nouveau Testament. Souvent, on a pris argument d'un certain nombre de variantes d'un évangile à l'autre pour nier l'inspiration des évangiles. Je prends les cas les plus typiques, ceux sur lesquels on revient, le fameux bâton de Bartimée, bâton qu'il n'a pas dans un évangile et bâton qu'il a dans un autre. L'herbe sur laquelle le Seigneur a fait asseoir la foule au moment de la multiplication des pains, herbe qui existe dans un évangile, herbe qui n'existe pas dans l'autre. Les expériences de Paul dans le livre des Actes, ou dans un des récits de la conversion de Paul, ce dernier entend la voix, mais la foule qui est là entend mais ne voit pas ce que lui Paul voit, le Seigneur, et dans un autre récit du même livre des Actes, c'est l'inverse. La foule voit mais n'entend pas. N'est-ce pas? Vous voyez, si c'était inspiré, eh bien, il n'y aurait pas ces détails divergents. Mais dépassons un petit peu cette réaction primaire. Ceux qui ont reçu les textes n'étaient pas plus bêtes que nous. Ils se sont bien rendus compte qu'il y avait de l'herbe dans un évangile et pas dans l'autre. que Bartimée avait un bâton dans un évangile et qu'il n'en avait pas dans un autre. Il n'était pas plus bête que nous. Et combien il aurait été facile à un scribe d'éliminer le bâton de Bartimée, d'ajouter de l'herbe là où il n'y en avait pas, etc. Personne ne s'est cru autorisé à le faire. Pourquoi? Parce qu'on avait un tel respect de la parole que l'on était certain être inspiré par Dieu. On avait une telle crainte de changer quoi que ce soit qu'on ne s'est pas permis de modifier, même là où apparemment il aurait fallu le faire. Même là où il y avait quelque chose qui semblait ne pas être normal. Et voyez-vous, ces petites variantes de détails, qui sont souvent des pierres d'achoppement pour les incroyants, sont au contraire des témoignages voulus par Dieu, que Dieu laisse exprès, pour nous montrer que nous pouvons avoir une confiance absolue dans la fidélité des textes qui nous ont été transmis par ceux qui les ont recueillis. Parce que s'ils n'avaient pas eu ce respect, ils auraient fait disparaître ces divergences-là. Voyez-vous ? Et c'est pourquoi il y a donc, nous pouvons dire, canonisation extrêmement précoce. Canonisation pratiquement au moment où les textes sont reçus. Et c'est le cas aussi au niveau des épîtres de Paul. Paul a écrit beaucoup d'épîtres. Nous entendons parler d'une troisième lettre aux Corinthiens, qui est d'ailleurs la deuxième, située entre la première et la deuxième. Nous entendons parler d'une lettre aux Laodicéens, dont nous n'avons plus de traces, etc. Paul demande aux Colossiens qu'ils lisent la lettre qu'il leur envoie dans l'église de Laodicée, qui est une église voisine, et que les Laodicéens viennent lire à Colosse la lettre que par le même courrier il leur envoie. L'épître colossien est conservé, l'épître laodicéen est perdu. Pourquoi? Pas parce que les laodicéens étaient plus négligents que les colossiens? Non, sûrement pas. Tout simplement parce que celle où laodicéen n'était pas inspirée. La lettre aux colossiens, pour parler d'elle par exemple, ce serait la même chose pour l'épître aux romains et pour les autres, a été lue à Colosse, puis elle a été lue ailleurs, à Laodicée, puis elle a circulé. Et on a commencé à se dire, mais vous savez, les Colossiens ont reçu une lettre de Paul, quelque chose de formidable. Ah oui, ça a été lu à Laodicée, ça provoquait un réveil là-bas à Laodicée. Ah, mais les gens d'Éphèse se sont dit, vous ne pourriez pas nous envoyer aussi cette lettre, on aimerait bien la lire, nous aussi, si elle est si formidable que ça. Même chose, produit un réveil là où la lettre a été envoyée. Et la lettre a continué à circuler, partout il y avait des effets spirituels qui se produisaient. On a dit ça, une lettre inspirée. Chacun voulait en avoir une copie dans les archives de son église. Et de temps en temps, on l'a relisée. Parce qu'on avait reconnu que là, qu'il y avait la voix de Dieu. La lettre aux Laodicéens, oui, c'était intéressant. Les Colossiens l'ont lu, intéressant. Mais sans plus. Paul n'était pas toujours inspiré, hein, pas plus que nous. Alors, on l'a lu une fois, deux fois, puis on l'a rangé dans les archives, et puis il disparaît. Elle n'a pas eu d'effet particulier, elle n'a pas laissé une trace particulière, tout simplement parce qu'elle n'était pas inspirée. Mais immédiatement, quand on a eu l'épître aux Colossiens, à Colosse et partout ailleurs, on a reconnu qu'il y avait une inspiration particulière. On a eu tout de suite un respect pour cette lettre et une autorité telle que ce qui était écrit en elle est devenu normatif parce qu'il y a eu des effets positifs qui ont été produits immédiatement partout où cette lettre a été lue. Un petit peu, vous savez, comme les réveils de Finet, toute proportion gardée, parce que dans l'histoire, ça s'appelle l'histoire sur les réveils religieux, c'est ça? Mon discours sur les réveils religieux. Vous savez que ces discours, par exemple, ont été à l'origine un bon siècle après avoir été écrits par Finet, et avoir provoqué partout où ils sont passés des réveils importants, eh bien, ils ont été à l'origine d'un immense réveil en Chine, le fameux réveil qui a précédé la guerre des Boxers. Tout simplement parce que des missionnaires là-bas se sont mis à lire les réveils de Finet. Eh bien là, il y a une inspiration. Et encore aujourd'hui, ce sont des écrits qui bouleversent des millions d'hommes et de femmes partout où ils les lisent. Pourquoi? Parce qu'il y a une inspiration qu'on ne pourra pas mettre évidemment sur le même plan que l'inspiration des Écritures Saintes. Mais toute proportion gardée, il y a quelque chose du même type. Quand on lit les écrits de Baudelaire, c'est la même chose. On trouve cette inspiration-là. Et automatiquement, eh bien, il y a des effets qui se produisent. Des effets positifs, le réveil, la repentance, le retour à Dieu, la mise en ordre. Et la bénédiction du Saint-Esprit. Alors, immédiatement, on a reconnu l'autorité de ces écrits. Et on les a bien entendu conservés précieusement, jusqu'à ce que finalement ils soient rassemblés en un seul corpus, celui des lettres de Paul, avant d'être ajoutés au corpus du Nouveau Testament, c'est-à-dire de tous les écrits apostoliques, c'est-à-dire Évangile, Actes, Épîtres et finalement Apocalypse. Donc, une très très grande antiquité de la canonisation. Et c'est pourquoi parler simplement de la canonisation comme l'officialisation ultime qui a lieu à l'époque des Massorètes ou qui a lieu à l'époque des conciles, enfin, c'est une aberration, c'est quelque chose qui a commencé immédiatement, dès les origines, dès que c'est l'Église ou le peuple de Dieu a commencé à entendre cette parole au travers de ces écrits-là. Déjà, il y a eu ce respect, il y a eu cette écoute, il y a eu cette mise à part, finalement, qui, c'est vrai, après un certain temps, a fini par être officialisée, rassemblée, n'est-ce pas ? Et finalement est devenue normative, mais qu'il était déjà, depuis déjà, des dizaines et des dizaines d'années, voire parfois des siècles.